Bonjour, vous êtes sur France Culture. Tout à l'heure, dans la grande table d'été, nous parlerons des quartiers d'artistes, juste avant de faire le portrait de Robert Combas. Il est 12h30. L'heure d'écouter le journal de la rédaction, présenté par Ludovic Piétenu. Bonjour.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous. Les prisons de Turquie, un mois après le putsch manqué de la mi-juillet, sont pleines à craquer. En conséquence, 38 000 personnes sont libérées, mais ces détenus n'ont rien à voir avec la tentative de coup d'État, nous dira Timur Öztürk. Manuel Valls apporte son soutien au maire interdisant le port du burkini sur les plages. Ce vêtement est une vision archaïque de la place de la femme dans l'espace public, estime le Premier ministre. Précision à suivre d'Antoine Maret. Le bal des prétendants à la succession de François Hollande est ouvert. Benoît Hamon s'est déclaré hier soir candidat à la primaire de gauche, une gauche en ordre dispersé pour 2017, nous dira Christine Moncla. Et puis la mobilisation grandit autour du cas d'Ali Zamir, un jeune auteur comorien prometteur de la rentrée littéraire, mais interdit d'entrer sur le territoire français. Récit de Marie-Pierre Véraud. Il n'y a plus de place dans les prisons turques. La chasse aux sorcières menée depuis un mois après la tentative de coup d'État est telle, la purge est si importante que les prisons ne peuvent plus recevoir de détenus. Le ministre de la Justice accorde donc une libération conditionnelle à 38 000 personnes, mais qui n'ont rien à voir, Timur Öztürk, avec le putsch raté.
Et oui, en Turquie, on dénombre 17 000 personnes présumées putschistes qui sont détenues provisoirement en attente de leur procès. L'idée de Bekir Bozdağ, le ministre de la Justice turque, c'est un peu de vider les prisons pour mieux les re-remplir. Il faut dire que les 200 000 prisonniers turcs s'entassent jusqu'au gymnase et aux toilettes des maisons d'arrêt. Ils sont trois fois plus nombreux qu'à l'arrivée au pouvoir de l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, en 2002. Ces libérations anticipées massives, elles concernent principalement des peines de moins de 2 ans. Elles interviennent au milieu d'une véritable tempête judiciaire. En effet, plus de 3000 magistrats se sont retrouvés derrière les barreaux depuis la tentative de putsch. L'appareil judiciaire turc est réputé pour être un bastion des partisans de l'imam Gülen. Depuis 2013, le président Erdogan tente de le reprendre en main. Une bataille qui a laissé la justice gravement désorganisée et inopérante. Il semble alors difficile d'assurer des procès équitables à ces milliers de prévenus et surtout dans un délai raisonnable. Leur sort risque d'être éclipsé par le traitement du cas Fethullah Gülen, dénoncé par Erdogan comme le cerveau du coup d'État. La Turquie réclame son extradition aux États-Unis pour le traîner devant un tribunal. 1900 ans d'emprisonnement viennent d'être requis à son encontre.
Timur Öztürk, épreuve supplémentaire que cette purge continue en Turquie. Plus de 2000 policiers ont encore été révoqués ce matin, ainsi qu'encore plusieurs centaines de militaires. Peut-être la sortie de l'impasse politique en Espagne, qui dure depuis 8 mois. Le mouvement de centre-droit Ciudadanos pourrait soutenir le PP, le parti populaire de Mariano Rajoy. La direction du PP se réunit tout à l'heure pour donner son feu vert. L'aviation russe bombarde pour le 2e jour consécutif des positions de l'État islamique en Syrie, en faisant décoller ses bombardiers depuis l'Iran. C'est un pas supplémentaire dans la coopération militaire entre les deux principaux soutiens, Moscou et Téhéran, au régime de Damas. Près de 100 000 personnes sont devenues en l'espace de quelques heures des réfugiés climatiques aux États-Unis, dans 2 États, en Californie, à l'est de Los Angeles. D'abord, état d'urgence déclaré. Ce sont des incendies qui ont poussé plus de 82 000 habitants à quitter leur foyer. 34 000 maisons sont menacées et 7 200 hectares de végétation ont brûlé en moins de 24 heures. Et puis, en Louisiane, dans le sud, des inondations ont affecté près de 40 000 maisons. Plus de 8 000 personnes ont trouvé refuge dans des centres d'hébergement. Comme le voile intégral, le burkini est une vision archaïque de la place de la femme dans l'espace public. Manuel Valls ne prend aucun détour ce matin dans une interview à nos confrères de la Provence, à Marseille. Le burkini est selon lui la traduction d'un projet politique, de contre-société ou encore, dit-il, d'un islam mortifère, incompatible avec les valeurs de la République. Le Premier ministre soutient les arrêtés municipaux pris contre ce vêtement de bain intégral par de plus en plus de maires, Antoine Maret.
Effectivement, Cannes, mais aussi Mandelieu-la-Napoule, Villeneuve-Loubet, Cisco et sans doute à venir le Touquet, le Cat ou encore Oyplage. Toutes ces villes ont un point commun, leur maire va ou a pris un arrêté municipal interdisant le burkini. Parfois, alors que le problème ne se pose pas, ainsi le maire LR du Touquet, Daniel Fasquelle, admet qu'il n'y a pas de burkini pour le moment dans sa ville. Ces maires sont majoritairement de droite, encartés à LR, mais certains sont socialistes, comme Ange-Pierre Vivoni, Le maire de Cisco affirme à travers cet arrêté vouloir protéger la population musulmane, les premières victimes des provocations extrémistes selon lui. Il fait allusion aux incidents survenus dimanche soir sur une plage de sa commune. Ces maires socialistes peuvent d'ailleurs compter sur le soutien de Manuel Valls. Il comprend ces maires qui veulent selon lui éviter des troubles à l'ordre public. Mais le Premier ministre se garde bien de trancher au niveau national. Il ne veut pas légiférer sur cette question. Manuel Valls est approuvé à sa droite, critiqué à sa gauche. Benoît Hamon évoque un débat incroyable. Il était ce matin l'invité de Pierre Veil sur France Inter.
Vous vous rendez compte que dans certaines communes, sans qu'on ait jamais vu un seul burkini, on prend des arrêtés. Vous rendez-vous compte aujourd'hui où nous en sommes arrivés? Nous en sommes arrivés à ce que sur le burkini, le Premier ministre s'exprime, dise que c'est une forme d'asservissement de la femme et qu'il ne faut pas légiférer. Mais si c'est si grave, qu'il légifère.
Le porte-parole du PCF, Olivier Dartigol, s'étonne. Il n'a rien d'autre à faire, le Premier ministre de notre pays. Et de conclure, il suit les pas d'une droite très radicalisée qui court après le Front National, joue un jeu très dangereux. Le Front National, justement, eh bien, il ne dit pas grand-chose. Pas de communiqué officiel, pas de prise de parole, juste quelques tweets ici et là. Marion Maréchal Le Pen affiche son soutien au maire PS de Cisco. La fermeté face aux provocations islamistes est le meilleur moyen d'éviter les violences, selon elle. Approbation et coup de griffe de Florian Philippot. Rien d'étonnant quand l'État laisse agir la racaille et la violence islamiste sans réponse. L'ordre, c'est pour quand ? Fin de citation. En revanche, du côté de Marine Le Pen, eh bien, c'est le silence radio.
Antoine Maret, sur ce sujet du burkini, on vient d'entendre la position de Benoît Hamon, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a par ailleurs officialisé hier soir sa candidature à la future primaire de la gauche en vue de 2017. Bonjour Christine Monclin.
Bonjour Ludovic.
Cela signe sa rentrée politique, avec lui celle des frondeurs. La multiplication des candidatures, Arnaud Montebourg n'est pas bien loin.
Il est juste derrière, même puisqu'il réunit ses amis à Frangy-en-Bresse ce dimanche, et il doit y annoncer lui aussi sa candidature à la présidentielle. Il s'agissait donc pour Benoît Hamon d'essayer de se démarquer de son ancien collègue du gouvernement avec qui il est souvent associé et pour cause. Ils avaient manœuvré ensemble pour que Manuel Valls soit nommé Premier ministre en 2014 et puis ils avaient été débarqués ensemble pour cause d'indiscipline. Mais aujourd'hui, le Benoît Hamon de 2016 n'est pas là, je le cite, pour faire la curée du mandat de Hollande, mais pour défendre un vrai projet de gauche, réduction du temps de travail, revenu universel, entrepreneuriat alternatif. On reconnaît la patte aubriste de ce proche de la maire de Lille qui veut, dit-il, reparler aux classes populaires. On a abandonné la question sociale pour ne surfer que sur l'identitaire et la sécurité, CF le burkini comme on vient de l'entendre. Et si l'ennemi de Montebourg sera encore la finance, eh bien celui de Hamon est la croissance. Il faut cesser de courir après ces demi-points dogmatiques et en disant cela, il s'attire les sympathies des écologistes.
C'est donc la rentrée politique, une gauche en ordre dispersé, Christine, une gauche façon puzzle.
Avec au sein de cette future primaire de la belle alliance populaire lancée par la direction du PS, il y a donc avec Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienemann et Gérard Filoche pour la gauche de la gauche, et puis deux centristes écolos pro-Hollande déjà déclarés, François de Rugy et Jean-Luc Benamias. Et puis il y a encore tous ceux à gauche qui ne veulent pas participer à cette primaire, Jean-Luc Mélenchon bien sûr, qui sera peut-être soutenu par le Parti communiste, le PC se décidera en novembre. Il y a les Verts qui se dirigent eux aussi vers une primaire interne, deux candidats déjà en lice, les eurodéputés Yannick Jadot et Michel Rivasi. On attend que Cécile Duflot veuille bien sortir elle aussi de l'ambiguïté à ce sujet. Il ne faut pas non plus oublier l'inconnu Emmanuel Macron, dont les jours au gouvernement sont peut-être comptés. Mais en décembre, François Hollande doit dire s'il se représente et par quel biais. Et dans ce cas, toutes ces cartes pourront être rebattues en fonction des chances de la gauche d'être ou pas au second tour de la présidentielle. Et pour l'instant, eh bien, les prétendants prétendent, comme disait Benoît Hamon ce matin sur France Inter, à la question « Soutiendrez-vous Hollande s'il gagne la primaire ?» Il répond « Tout comme il me soutiendra si c'est moi qui la remporte. »
Christine Moncla, une primaire de gauche à laquelle devrait se présenter François Hollande. Le chef de l'État rentré de ses courtes vacances ce matin a commencé sa journée par un point sur la lutte antiterroriste, une réunion du Conseil de Défense avec ses ministres les plus proches, le chef d'état-major des armées et les patrons des services de renseignement. En fin de journée, François Hollande rencontrera à Rome le pape François, trois semaines après après l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray et la mort du père Hamel. Une audience privée au Vatican. Un millier de signatures déjà en quelques heures à peine pour demander aux autorités françaises de revenir sur leur décision. Un refus de visa pour un jeune écrivain comorien invité en France pour la rentrée littéraire, Ali Zamir a 27 ans et signe Marie-Pierre Véraud son premier roman, Anguille sous roche, c'est aux éditions Le Tripode. Y aura-t-il Ali Zamir en France dans les festivals début septembre?
Eh bien peut-être pas, en tout cas il a appris hier le refus de la préfecture de La Réunion de lui accorder un visa de transit pour la métropole, un refus incompréhensible pour son éditeur qui espère avec le lancement de cette pétition faire bouger l'administration. Il y écrit « Un pays qui se ferme même à ceux qui éveillent sa langue est un pays qui ne va pas bien ». Ali Zamir nous expliquait ce matin, Frédéric Martin, le directeur des éditions Le Tripode, c'est un cadeau fait à la France, une langue époustouflante qui le classe déjà, selon Véronique Ovaldé, parmi les plus grands. La vocation de ce jeune homme, fils d'un instituteur aux Comores, vient peut-être de la découverte à l'âge de 15 ans de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, un livre qui le bouleverse et qu'il ne cesse de relire. À 19 ans, Ali Zamir obtient une bourse d'une fondation américaine pour aller étudier la littérature française au Caire. Il en revient avec ce roman dans ses bagages, Anguille sous roche, qualifié d'événement de la rentrée littéraire par les critiques, déjà sélectionné par plusieurs prix littéraires, prix de littérature francophone, Sangor, le prix du roman Fnac, celui du livre sur la place à Nancy, le prix hors concours 2016. Et Ali Zamir est réclamé de partout, médias, festivals littéraires à Strasbourg ou encore Manosque. Anguille sous roche, c'est le cri d'une femme qui se noie et dans un souffle tient à nous raconter sa vie, une seule phrase qui se déploie sur quelques 300 pages. Une intensité qui a bouleversé ses premiers lecteurs, mais c'est l'administration qu'il faut désormais convaincre. Pour l'heure, Ali Zamir reste bloqué à Anjouan, où il réside.
Marie-Pierre Véraud, merci. Au chapitre économique, le géant français Essilor, déjà premier mondial sur le marché des verres de correction, veut devenir champion de la vente d'optique en ligne. Le groupe va racheter My Optic Group, l'un des leaders européens de l'e-commerce optique. Lauriane Delanoë, bonjour.
Bonjour.
Une nouvelle acquisition pour Essilor sur un marché qui démarre lentement.
Oui, en Europe et surtout en France, où peu d'acteurs de l'optique se positionnent sur Internet. Essilor n'exploite pas ce créneau dans notre pays pour l'instant, mais le leader mondial des verres se rapproche en rachetant cette société britannique, My Optic Group. Il va ainsi entrer sur le marché allemand et se renforcer au Royaume-Uni et dans les pays nordiques. Essilor s'est lancé dans l'e-commerce mondial dès 2009 aux États-Unis. Il y a 7 ans, ce marché était encore expérimental, mais depuis, la vente en ligne de lunettes et de lentilles prend de l'ampleur, un segment de 4 milliards d'euros par an. Et le géant français s'est donc installé sur tous les continents, sauf l'Afrique. Après l'Amérique, il y a eu l'Asie. Essilor est bien placé en Chine et en Inde. Le fabricant de verres se tourne aussi vers l'Amérique latine avec l'acquisition en début d'année de 2 sociétés brésiliennes. L'Europe est donc maintenant son objectif, clairement affiché dans le rapport financier du premier semestre 2016. Mais toujours pas de projet en France, nous dit le groupe, affirmant que le marché n'émerge pas encore vraiment. C'est aussi sans doute parce que Essilor France prend 70% du marché français de la vente physique. La société nous explique d'ailleurs qu'elle veut renforcer les liens entre les magasins et les sites internet. Un moyen de ne pas se mettre à dos les opticiens derrière leur comptoir.
Lauriane Delanoë, pour refermer ce journal, un mot sur un engouement, une vague qui ne cesse de croître, la location de bateaux, et c'est Marion Aquilina qui s'est penchée sur le sujet. Écoutez.
Certaines rivalités seront peut-être exacerbées, étant donné qu'elles ont toutes le même rêve, devenir le Airbnb de la location de bateaux entre particuliers. En 2013, les 4 plateformes ont commencé avec une dizaine de bateaux, et aujourd'hui, elles en comptent des milliers, plus de 5000 dans 20 pays pour l'entreprise Click & Boat, dont Jérémy Bismuth est le cofondateur.
La première saison, on a généré quasiment 200 000 euros de revenus locatifs pour nos propriétaires. L'été dernier, c'était 2 millions. Et cette année, on fera plutôt entre 7 et 8 millions d'euros.
Les 4 startups s'accordent à dire que la progression est exponentielle. En témoignent les fonds qu'elles ont récoltés récemment, entre 500 000 et 1 million d'euros, ce qui leur permet de poursuivre leur développement en Europe. Mais l'un des fondateurs de Samboat, Nicolas Cargou, assure qu'il sera impossible d'échapper à la sélection naturelle.
Il va sûrement y avoir une ou deux fusions, mais il va sûrement y avoir beaucoup de dépôts de bilan, ça c'est certain. En gros, la grosseur du marché ne permet pas aujourd'hui d'être à 4, au maximum 2, mais surtout un seul. Sachant qu'il faut aussi prendre en compte les concurrents européens, par exemple de Nautal, qui ne sont pas très mauvais sur le marché espagnol, qui depuis plusieurs années essayent à tout prix d'investir dans le marché français, s'implanter sur la côte méditerranéenne, mais ils essayent.
En revanche, les Américains, de leur côté, n'essaient pas de s'attaquer au marché européen, donc aucune crainte à avoir pour l'instant, selon Jérémy Bismuth de Click & Boat.
typiquement prenez Budbound, quand vous allez sur son site web et que vous faites une recherche, si vous essayez de taper Cannes, Corse ou Marseille, le moteur de recherche de Google ne vous les propose pas. C'est uniquement géolocalisé sur les États-Unis. C'est un signal très fort.
Un Américain comme Get My Boat fait pourtant office de mastodonte en proposant plus de 60 000 bateaux dans 169 pays.
La bataille des Airbnb du bateau, reportage de Marion Aquilina. Le temps de ce mercredi 17 août, de la Bretagne au sud-ouest, les nuages prédominent, de la Haute-Normandie jusqu'à la région centre en passant par l'Île-de-France. Le soleil est généreux sur le reste du pays, temps mitigé. Les températures maximales cet après-midi, 22 à 27 degrés près de la Manche et de l'Atlantique, 26 à 32 degrés ailleurs, jusqu'à 33 degrés dans le sud-est. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal, je vous retrouve à 18h.